Bonjour, nouvelle vie. Quelle joie pour moi d'être avec vous en ce début d'année. Alors, permettez-moi d'ajouter ma voix et de vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. En ce début d'année, j'ai pensé bon de vous apporter un message dont le titre, c'est « Il est un Dieu fidèle ». Il est un Dieu fidèle. Parce qu'en début d'année, comme on vit, qu'est-ce que nous réserve 2022? Avec tout ce que nous vivons depuis 2 ans, des difficultés, c'est difficile d'être d'un grand optimisme et même d'une légèreté. Vous vous souvenez de janvier 2020? Alors qu'on disait 2020 en janvier 2020, c'était 2020, 2020, VIN, ouh, ça va être la fête. 2 mois après, on était tous confinés. C'était moins la fête. Et peut-être qu'au lieu de voir l'année avec optimisme qui débute, il y a peut-être plus un sentiment de découragement, un sentiment d'épuisement, un sentiment même d'anxiété. Mais pas juste à cause de la pandémie. Vous savez, la pandémie mondiale n'a pas empêché ce que j'appelle les pandémies personnelles, les pandémies familiales, les pandémies plus proches de nous. Ça n'a pas empêché des crises, des difficultés qu'on peut vivre personnellement en plus de la pandémie. Comment faire face à ce genre de situation? Comment retrouver courage? Comment retrouver espoir devant une telle situation? Et j'aimerais vous inviter à retourner dans la parole de Dieu, qui est d'une franchise, parce que nous ne sommes pas les seuls à vivre un tel moment ou un tel sentiment devant une année qui débute. Et j'aimerais vous inviter ce matin à aller voir dans le livre de Lamentations, déjà le titre pour commencer l'année, hein, c'est déjà un peu... Mais le prophète Jérémie va décrire lui-même sa situation comme ceci. Il va dire dans les versets 19 et 20 de Lamentations 3, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Lorsque mon âme s'en souvient, lorsque je pense, quand je regarde mes circonstances, quand je regarde ce qui m'entoure, mon âme est abattue au-dedans de moi. Qu'est-ce qui a fait que Jérémie avait ce tel sentiment qui l'habitait? Bien, dans les versets précédents, à partir du verset 1 dans Lamentations 3, on va retrouver les 9 plaintes de Jérémie. Et voici les lamentations de Jérémie, voici les plaintes de Jérémie. Il va dire premièrement qu'il a le sentiment que Dieu est en colère contre son peuple au verset 1, que Dieu fait vivre sa fureur contre son peuple. Jérémie va également, deuxièmement, se dire se retrouver dans le noir, dans les ténèbres, dans la confusion. Ne pas comprendre ce qui se passe, de ne plus voir clairement la réalité des choses qui l'entourent. Troisièmement, il a l'impression que Dieu est littéralement contre lui, que ce que Dieu veut est contre lui. Quatrièmement, il va dire qu'il est tourmenté, tourmenté dans sa quatrième plainte, c'est qu'il est tourmenté dans ses pensées, il est dans son corps, il est souffrant dans son corps. Il y a de la douleur dans son corps et de la douleur dans ses pensées. Il va dire, cinquièmement, qu'il ne trouve aucun repos, aucune porte de sortie. Il se sent complètement captif d'une situation qu'il n'arrive pas à se sortir. Il va même décrire la situation comme étant environné, comme une armée qui entourait la ville à l'époque pour saisir la ville. Jérémie a l'impression qu'il est entouré dans ces circonstances, entouré, il ne peut pas s'en sortir. La sixième lamentation, c'est qu'il y a le sentiment que ses prières sont sans réponse. Il va dire, j'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière parlant de Dieu. Mes prières sont sans réponse. Septième plainte, les gens se moquent de lui. Il est la risée de son peuple. La risée du peuple due à sa foi, due à son désir d'obéir, de rester fidèle à Dieu. Il est le sujet de moquerie. On va même écrire des chansons à propos du prophète Jérémie pour se moquer de lui. La huitième plainte, c'est qu'il est prêt à tout lâcher. Il est prêt à tout abandonner. À quoi bon? À quoi bon? Et la neuvième et dernière plainte de Jérémie, il va affirmer qu'il a perdu espoir. Une perte d'espoir, un désespoir profond, parce qu'il va dire, « Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Il a même perdu espérance en Dieu. C'est horrible de se sentir désespéré dans une situation, mais combien pire, combien plus souffrant de perdre espoir en Dieu. Car si nous n'avons plus espoir en Dieu, nous allons où? Où est notre ressource, notre refuge? Et c'est ainsi que Jérémie va dire, quand je pense à ces choses-là, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est lourd. Et je me suis demandé en ce début d'année, est-ce que ça te ressemble? Est-ce que tu peux t'identifier avec certaines ou peut-être avec une grande partie des plaintes de Jérémie? Peut-être que toi aussi, dans tes circonstances, ils sont tellement lourds que ton âme est abattue à l'intérieur de toi. Parce que toi aussi, premièrement, peut-être que tu as l'impression que Dieu est en colère contre toi. Même pour certains, que Dieu est en colère contre l'humanité. Et de là la pandémie. Que Dieu est en colère contre nous, que Dieu est en colère contre toi. Que tu goûtes, tu as le sentiment de goûter à la colère de Dieu. Peut-être as-tu l'impression d'être dans le noir, dans les ténèbres, d'être dans la confusion, comme Jérémie l'était, de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, de ne pas comprendre tes circonstances, d'être dans ce sentiment de confusion face au futur, de te retrouver dans ta solitude, dans tes craintes et d'être perdu dans tes pensées. Peut-être as-tu l'impression que Dieu est contre toi, que Dieu est contre toi, que Dieu est un rabat-joie, que la volonté de Dieu, c'est surtout qu'on ne prenne aucun plaisir dans la vie, qu'on n'ait pas la joie. Peut-être as-tu le sentiment que ses plans sont contre tes plans, que le plan de Dieu va être se manifester, de faire des choses que Dieu veut que tu fasses, des choses qui sont contraires à ce que tu as le goût de faire. Sentiment que Dieu est contre toi. Peut-être es-tu dans la souffrance, comme Jérémie, dans la souffrance dans tes pensées, dans ton corps. Vous savez, la pandémie, c'est une chose, mais le cancer a continué de frapper bon nombre de personnes. La maladie a continué de frapper bon nombre de personnes. Et peut-être, alors que tu m'écoutes, tu souffres dans ton corps, tu ressens la douleur dans ton corps. Mais peut-être que ta douleur est au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions. Peut-être que ta douleur, c'est encore l'anxiété devant l'inconnu, devant encore une année difficile qui s'ouvre devant toi. Peut-être que c'est encore les sentiments de dépression. Peut-être que la période de Noël a été difficile encore une fois. Et c'est un sentiment de dépression qui t'habite, que tu souffres dans tes pensées. Peut-être que tu souffres encore d'une mauvaise estime de toi ou une dévalorisation de toi. Peut-être que tu souffres dans la honte. C'est souffrant dans tes pensées parce que tu as honte. Et tu vis cette honte en toi. Peut-être es-tu comme Jérémie, où tu as l'impression qu'il n'y a aucune porte de sortie pour toi. Il n'y a aucune porte de sortie, c'est comme si ça t'environne tout autour, c'est sans issue. Et parfois même, dans ce sentiment d'être captif, de ne pas pouvoir sortir de cette situation, de te sentir captif et prisonnier, parfois même l'idée du suicide peut venir. Les idées noires peuvent venir. Le désir, parfois, de simplement vouloir mourir. Pourquoi? Parce que c'est douloureux, c'est souffrant et je ne vois pas de porte de sortie autre que pour que la souffrance cesse. La mort devient ma seule porte de sortie. Peut-être as-tu le sentiment que tes prières sont sans réponse. Comme Jérémie qui priait, tu pries, tu es sincère dans ta prière et pourtant tu ne vois pas la réponse, tu ne vois pas le résultat de ta prière, tu ne vois pas Dieu répondre. Peut-être as-tu l'impression et la réalité que les gens se moquent de toi, que les gens se moquent de ta dévotion pour Dieu. Peut-être que c'est encore le cas pendant la période de Noël, pendant les fêtes familiales, où encore une fois, on s'est moqué de ta foi. On s'est moqué de ton désir de vivre pour Dieu. Peut-être es-tu encore le sujet de moquerie à l'école, avec tes amis, dans ton entourage, parce que tu désires marcher dans la pureté au niveau sexuel, que tu as choisi de t'abstenir de la sexualité hors du mariage parce que tu veux marcher dans la pureté. Et on se moque de ce désir-là. On se moque de toi. Peut-être qu'on se moque de ton désir de vivre pour Dieu, de peut-être même dire non à une carrière pour servir Dieu. Et tu deviens un sujet de moquerie dans ta famille, dans ton entourage. Et peut-être es-tu dans l'épuisement ce début d'année comme Jérémie, prêt à tout lâcher, prêt à tout abandonner. Mais pire encore, peut-être as-tu perdu espoir aujourd'hui. alors que l'année s'ouvre devant nous. Tu regardes l'année et tu n'as pas espoir que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer. Tu as perdu espoir et peut-être as-tu même perdu espoir en Dieu, que Dieu peut faire quelque chose, que Dieu veut faire quelque chose, que Dieu veut intervenir dans ta situation, dans ta vie. Et lorsque tu penses à tes circonstances, lorsque tu penses à toutes ces situations-là autour de toi, tu comprends Jérémie qui dit « Quand je pense à toutes ces choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Parce que c'est lourd. Quand je regarde autour de moi, quand je regarde mes circonstances, quand je regarde tout ce qui prend place dans le monde, quand je regarde ce qui prend place dans ma famille, dans mon foyer, dans mon corps, dans mes pensées, mon âme est abattue. J'aimerais te faire une suggestion. À l'exemple de Jérémie, à l'exemple de ce que la parole de Dieu nous enseigne, j'aimerais te faire une suggestion, t'offrir une solution en ce début d'année. Comment je peux faire face à une nouvelle année qui s'ouvre devant moi? Jérémie va nous donner un exemple. Un exemple qui, aujourd'hui, en termes modernes, en termes de psychologie moderne, on va parler en psychologie moderne d'une thérapie. C'est un élément que j'utilise souvent dans mes consultations. On appelle la thérapie cognitivo-comportementale. La théorie de cette thérapie-là, c'est que le cognitivo, c'est-à-dire mes pensées, lorsque je travaille sur mes pensées, les comportements vont suivre. Il va y avoir des changements dans mes comportements. La psychologie moderne pense qu'elle vient d'inventer quelque chose. Mais dans les faits, elle a simplement découvert ce que la parole de Dieu nous disait depuis des siècles. Et c'est ce que Jérémie nous dit ici. On est vraiment là un exemple de thérapie cognitivo-comportementale. Jérémie nous dit ceci. Alors que mon âme, quand je pense à toutes ces choses, mon âme est abattue. Mais au verset 21, Jérémie va dire la clé pour que tout change. Il va dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. En d'autres mots, où mets-tu ton focus? Où mets-tu ton attention dans tes pensées? Jérémie dit, voici les choses qui vont... Quand je pense à ces choses-là, mon âme est abattue. Mais voici ce à quoi je veux penser pour retrouver mon espérance. En d'autres mots, il veut regarder au fait qu'il y a plus que juste ces circonstances. En d'autres mots pour toi, lorsque tu regardes toutes ces choses autour de toi, ce que Jérémie nous enseigne, c'est lorsqu'on regarde autour et on voit toutes ces circonstances qui viennent abattre notre âme, il nous invite à lever la tête et regarder vers les cieux et de repenser et de penser à Dieu. Tu vois, de voir plus grand que nos circonstances. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient déjà. C'est ça, la foi. Et la foi, ce n'est pas de nier mes circonstances. Parfois, j'entends des gens me dire, on marche dans la foi. Non, ce n'est pas de nier qu'est-ce qui se passe autour. Ce serait de la folie de nier qu'est-ce qui... On est dans une pandémie, de voir ma souffrance. Ce n'est pas de la nier, mais plutôt d'aller voir plus grand. D'aller voir qu'il y a plus que ce que mes yeux physiques, ce que mon corps physique, ce que je peux ressentir, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus grand. Il y a Dieu. En d'autres mots, de voir que Dieu est là. Tu sais, on est tous d'accord pour dire que cette feuille de papier, elle est beaucoup plus petite que le soleil. On est tous d'accord. Si c'est difficile pour toi à accepter, ben appelle-moi parce que peut-être besoin de quelques rencontres de relations d'aide. Hein? C'est plus petit que le soleil, on s'entend. Par contre, si je mets cette feuille devant mes yeux, elle va me cacher le soleil. Si je mets cette feuille et que je regarde, je ne verrai plus le soleil. Et c'est là l'idée que Jérémie est en train de dire. Lorsque je regarde mes circonstances, je les vois, elles sont là. Mais si c'est tout ce que je vois, je ne verrai pas qu'est-ce qu'il y a de plus grand autour. Et Jérémie nous invite simplement à baisser nos circonstances, nos difficultés, et à nous dire, relève la tête et regarde. Voici ce que je veux repasser en mon cœur qui va me donner de l'espoir. En d'autres mots, d'affirmer, de réaliser de déclarer le reste de la réalité. Et le reste de la réalité, alors que Dieu est présent et que Dieu est là. C'est ça le reste de la réalité. Je ne nie pas la réalité. Je ne suis pas dans un déni de la réalité. La réalité, elle est bien là. Je la vois, je la conçois, je la vis, je la ressens. Lorsqu'on est croyant, on ne vit pas sur un nuage. On vit bien parmi, sur la terre. Et on va avoir les épreuves. Mais la foi me dit, il y a plus. Et de voir la réalité avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui va me redonner espoir? Qu'est-ce qui va te redonner espoir? Qu'est-ce qui va nous redonner espoir pour l'année qui s'ouvre devant nous? J'aimerais te proposer quatre vérités. Quatre vérités que Jérémie va nous dire, ces quatre vérités-là, c'est ce qui va me redonner espoir, qui va ranimer mon espérance en l'Éternel. La première vérité, c'est que Dieu n'est pas contre moi. Dieu n'est pas contre moi. Le verset 22 débute en disant « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu ne peux pas épuiser les bontés de Dieu envers toi. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas épuiser toutes les bontés. C'est pas comme si on avait un compte bancaire de bonté et après qu'on a tout dépensé, bien le compte est vide. Non, c'est pas la réalité avec Dieu. Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées. Dieu est toujours bon. En d'autres mots, il est vraiment le bon Dieu. Vraiment, il est bon. Et ses bontés sont pas épuisables. Il est bon pour ses enfants. Il est bon. Et ses bontés sont là pour nous. La racine du mot hébraïque, du mot hébreu pour bonté, peut être traduit par amour loyal. J'aime tellement ce sens-là. Amour loyal. En d'autres mots, Dieu ne manquera jamais de loyauté envers ses enfants. Dieu ne manquera jamais d'un amour loyal envers ses enfants. Peut-être as-tu vécu un manque de loyauté, peut-être dans une relation, dans un mariage, dans la famille, avec des amis. Peut-être tu as été brisé, tu as été blessé par un manque de loyauté. Mais Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour qui n'est pas épuisé, un amour qui est toujours loyal. Ses bontés ne sont pas épuisées. La deuxième vérité, le verset 22 continue en disant, « Et ses compassions ne sont pas à leur terme. » Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles ne cessent jamais, ses compassions. Et je ne sais pas si tu as remarqué, s'il y a des gens qui sont plus portés vers l'orthographe, probablement que certains ont réalisé que le mot « compassion » est écrit au pluriel ici. Alors, dans l'orthographe, si tu tentes d'entrer le mot « compassion » au pluriel dans ton programme pour écrire sur ordinateur, ton programme de correcteur d'orthographe va immédiatement te le souligner. Ça ne s'écrit pas au pluriel, le mot « compassion ». Mais les compassions de Dieu, elles sont non seulement, elles sont au-delà des règles d'orthographe. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses dans sa quantité et dans sa qualité. Dieu a des compassions et de la compassion pour nous. C'est une intensité de sa compassion pour nous. Et ses compassions sont sans limite. Elles sont sans limite. Tu vois, Dieu comprend. Dieu comprend comment nous sommes faits. Il connaît notre nature, qui peut être faible parfois, qui est déchue, qui peut avoir des difficultés. Dieu comprend cela. Il a compassion de nous parce qu'il comprend que dans la souffrance, on peut se mettre à douter, que dans la souffrance, dans la maladie, on peut avoir des craintes et des peurs. Devant une pandémie, on peut avoir des sentiments. Dieu a compassion de nous. Il nous comprend comme un père a compassion de ses enfants, comme une mère a compassion de ses enfants. Parce que tu vois le mot hébreu pour compassion. C'est le mot qui fait référence aux intestins, aux tripes. Et la racine du mot compassion vient des tripes. Vous savez, on a encore l'expression aujourd'hui, lorsque on voit quelque chose qui nous touche, qui vient. Parfois, on va avoir l'expression, ça nous a saisi aux tripes. Hein? En bon québécois, ça m'a pogné aux tripes. Hein? Il y a quelque chose qui est venu me saisir. J'ai été saisi. Là. Il y a quelque chose, ça me faisait mal. Saisi de compassion. Et tu vois, le mot hébreu pour compassion, c'est cela, mais pour les Juifs, c'est le sein maternel. C'est une image du sein maternel. Et dans la culture juive, c'est le lieu d'un amour inconditionnel. Le lieu d'un amour sans limite, comme celle d'une maman. C'est l'image d'un amour éternel. Et son amour maternel ne cesse jamais. Vous pourrez aller le lire, mais Ésaïe avait dit, est-ce qu'une femme pourrait oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même, elle l'oublierait. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu s'associe à l'amour maternel pour dire, moi, je ne t'oublierai jamais. Même si c'est impossible à penser qu'une mère pourrait oublier l'enfant qu'elle a allaité. Mais même si cela arrivait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ésaïe va continuer dans Ésaïe 66, c'est-à-dire, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Ainsi, c'est un amour maternel. Lorsque Dieu dit, que Jérémie déclare les compassions de Dieu, on parle de cet amour plein de compassion, cet amour plein de soins pour consoler, pour protéger. J'aime beaucoup comment la Bible, en français courant, a traduit ce passage, ce même verset. Dans la Bible du français courant, Lamentations 3, 22 dit, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. » Il n'est pas au bout de son amour. Vous savez, parfois, on peut avoir des moments avec nos enfants où on dit ils nous poussent à bout. Et parfois, on peut avoir le sentiment que c'est la même chose avec Dieu. Ouf! Dieu doit être fatigué de m'entendre. Dieu doit tellement être fatigué d'entendre ma même repentance. La même chute, la même erreur, le même défi. J'ai encore échoué. Dieu doit donc être à bout et me dire, bon, ben celui-là, c'est terminé. Je lui en ai assez donné. Non, 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 non. Les compassions de Dieu, il n'est pas au bout de son amour pour toi. Il n'est pas au bout. Il n'est pas au bout. Et la troisième vérité dans tout cela, c'est que la compassion, les compassions de Dieu et les bontés de Dieu, elles sont fraîches, elles sont nouvelles à chaque matin. Jérémie va dire, elles se renouvellent chaque matin. Elles sont pour nous et elles sont aujourd'hui. Elles sont fraîches pour aujourd'hui. Il renouvelle ses compassions et ses bontés à chaque matin. À chaque matin. Tu vois combien c'est bon de savoir que chaque matin, chaque jour, il me donne, il m'offre ce que j'ai besoin pour aujourd'hui, en 2022. Bien que Jérémie a écrit ceci il y a plusieurs siècles, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui, en 2022. Quand ce matin, Dieu renouvelle ses compassions, Dieu renouvelle ses bontés pour nous. Jésus le dit comme ceci dans Matthieu 6, verset 11. Il a dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Quotidien. Aujourd'hui. Tu vois, les bontés de Dieu, les compassions de Dieu, elles ne sont pas passées date. Ce ne sont pas des choses anciennes d'une autre époque. Ce n'est pas des choses d'une autre culture ou d'un autre moment de l'histoire humaine. On se souvient. On se souvient. Non, non. Elles sont pour aujourd'hui, aujourd'hui même, 2022, là où tu es, là où tu es. Dieu veut déverser ses bontés, ses compassions fraîches et nouvelles pour aujourd'hui. Elles ne sont pas prématurées non plus. Vous savez, ça vous est probablement arrivé. Parfois, j'aime les bananes. Alors, on a tous nos choses préférées. J'aime les bananes. Mais vous serez d'accord avec moi qu'une banane verte, c'est pas aussi bon qu'une bonne banane jaune, hein, qui est bien mûrie. Un fruit qui est prématuré, qui va être sûr, une pomme qui n'est pas prête, qui n'est pas maturée, qui n'est pas arrivée à terme. elle sera moins bonne. Les promesses, les compassions, les bontés de Dieu, c'est comme, ce n'est pas prématuré. Elles sont pour aujourd'hui, elles sont fraîches, elles sont bonnes, elles sont prêtes, elles sont pour aujourd'hui. Et elles se renouvellent à chaque matin. Un peu comme quand Israël marchait dans le désert et qu'à chaque matin, il retrouvait la manne. Dieu t'offre à chaque matin ses bontés et ses compassions. Et parfois, je me demande et je prends conscience que parfois, je ne vais pas m'accaparer, je ne vais pas saisir ses bontés et ses compassions à chaque matin. Le train de la vie, les préoccupations, les choses vont vite. Et je n'ai pas le temps de m'arrêter pour dire, « Seigneur, tu as des bontés pour moi ce matin. Tu as des compassions pour moi ce matin. Est-ce que je prends le temps d'aller me ressourcer? Est-ce que je prends le temps d'aller saisir, de recueillir ces bontés et ces compassions à chaque matin? » Je dis, « Oui, mais j'ai beaucoup à faire. » J'ai jamais oublié une citation de Martin Luther qui disait, « J'ai tant à faire que je dois prier. » J'ai tant à faire que je dois prier. Dieu renouvelle à chaque matin ses compassions et ses bontés. Et la dernière vérité, alors qu'il termine le verset 23, Jérémie va dire, « Oh, que ta fidélité est grande! » Oh, que ta fidélité est grande! Et voilà toute la structure, tout ce qui va tenir, la base de cette vérité pour Dieu, c'est que Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Ses bontés, ses compassions sont inépuisables. Il les renouvelle à chaque jour. Et parce qu'il est fidèle, je peux m'appuyer sur ses vérités parce que mon Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Aucune épreuve mondiale, aucune épreuve personnelle ne peut toucher, ne peut changer, ne peut altérer la fidélité de notre Dieu. Que ses promesses sont oui, amen. Que Dieu ne change pas. Qu'il est l'Éternel, mon rocher de paix. Peut-être que c'est contraire à des fausses promesses que tu peux avoir où les gens ont manqué de loyauté envers toi. Ils ont été infidèles envers toi. Dieu, lui, demeure fidèle. Voici comment Moïse l'a écrit dans Deutéronome 7. Il dit, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Tu as vu la promesse? Est-ce que tu saisis aujourd'hui que ce que tu es en train de vivre, alors que tu cherches à obéir à Dieu, alors que tu vis pour Dieu, ce n'est pas juste à propos de toi, que c'est à propos de génération et génération et génération après toi, que Dieu promet son alliance jusqu'à la millième génération. Trop souvent, j'entends parler de gens qui disent « Ah, il y a des liens générationnels dans la famille. » Oui, mais il y en a un lien, il y a une alliance qui est là, que j'ai besoin de m'accrocher, jusqu'à la millième. Ce n'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces, de génération en génération, jusqu'à 1000 générations qui observent ces commandements. Dieu est fidèle, même quand je ne le suis pas. La fidélité de Dieu n'est pas déterminée par ma fidélité. Et gloire à Dieu pour cela. Voilà la grâce infinie. Lorsque même moi, je peux être infidèle envers Dieu, Dieu demeure fidèle envers moi. Il ne m'abandonne pas, il ne me rejette pas. Parce que mon Dieu est un Dieu qui est fidèle. En ce début d'année, peut-être es-tu abattu ce matin. Peut-être es-tu abattu, découragé, déprimé, inquiet face au futur. Oui, face à la pandémie, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va être après la pandémie? Qu'est-ce qui va rester après la pandémie? Combien de temps la pandémie? Oui. Mais peut-être que tes pandémies sont beaucoup plus personnelles, beaucoup plus proches de toi que cette pandémie mondiale. Peut-être que c'est dans ta santé ce matin. Peut-être est-ce que, alors que tu m'écoutes, tu souffres dans ton corps, tu as mal, le cancer est revenu, la douleur de la maladie est là. Peut-être que tu as des défis au niveau de ta santé mentale. On le voit partout, on en parle partout, mais la pandémie a eu un impact majeur sur la santé mentale de beaucoup de gens. Il faut en parler, il faut sortir des tabous. Que cela peut devenir lourd, décourageant et difficile pour la santé mentale, pour la santé émotionnelle des gens. Peut-être que tu souffres dans tes émotions. Peut-être que tu souffres d'une crise dans ton couple. Nombre de couples qui traversent difficilement la période dans laquelle nous vivons. Peut-être que tu souffres face à tes enfants, les choix de tes enfants, les situations que tes enfants vont vivre. Ou peut-être les choix de ce que tes petits-enfants sont en train de vivre. Peut-être est-ce qu'il y a une angoisse face au futur. Quand tu les regardes et tu te demandes qu'est-ce que tu as presque perdu espoir que Dieu peut faire quelque chose avec eux. J'aimerais juste t'encourager ce matin. Je veux juste t'encourager que Dieu est encore capable d'aller les chercher. Que Dieu est encore capable. Le dernier chapitre n'a pas été écrit dans la vie de tes enfants ni dans la vie de tes petits-enfants. Le dernier chapitre n'est pas écrit encore. Il y a encore espoir. Peut-être que c'est ta souffrance dans ton célibat. Encore une fois, tu te retrouves seul dans ton célibat. Peut-être que la période de Noël qu'on vient de terminer, les fêtes de Noël, ça a peut-être été très loin d'une fête pour toi. Parce que tu étais encore seul. Peut-être que c'est une tempête, peut-être que c'est une crise au travail, à l'école. Peut-être que c'est juste le sens de ta vie qui est ténébreux. Tu vois les années, encore une nouvelle année qui commence. Et la direction de ta vie, les choses sont devenues ténébreuses. Peut-être que tu es dans le deuil cette année, parce que peut-être qu'en 2021, tu as perdu quelqu'un, tu as perdu un être cher, tu te retrouves seul. Peut-être que c'est le deuil d'une fausse couche, où tu souffres dans ta solitude. Les gens ne savaient peut-être même pas que tu es enceinte et tu as perdu l'enfant. Et tu souffres dans ta solitude. Et lorsque tu regardes à tout cela, lorsque tu regardes à toutes tes circonstances, ton âme est abattue aujourd'hui. Mais je veux juste t'encourager ce matin à ouvrir grand les yeux, à voir plus grand que juste tes circonstances ce matin. Et à voir, à ouvrir les yeux de la foi pour voir le reste de la réalité. Le fait demeure que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il est encore celui qui siège dans les lieux célestes. C'est encore lui qui est en contrôle de toutes choses. Il est encore celui que sa volonté va être faite sur la terre comme dans les cieux. Vois le reste de la réalité et commence à penser à ces choses. Commence à réfléchir à ces vérités. Médite ces vérités comme Jérémie l'a écrit. Pour faire du bien à ton âme, pour retrouver espérance. De voir comme Jérémie, de dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance en 2022. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme en 2022. Elles se renouvellent encore chaque matin pour moi en 2022. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité continue d'être grande. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Et devant la nouvelle année qui s'ouvre à nous, avec toutes les inconnues, toutes les circonstances, mes yeux se lèvent pour regarder et contempler mon Dieu qui est encore en charge et mon Dieu qui est fidèle, qui a des bontés pour moi encore cette année et des compassions riches en compassion. Qu'il renouvelle à chaque matin, à chaque jour, pour toi et pour moi. Permets-moi de terminer ce message avec un mot de prière en ce début de nouvelle année. Père, je te remercie que tu es un Dieu qui est fidèle. Pour certains, ils ont peut-être vécu des promesses brisées, des infidélités. Combien il est bon de voir que tu es un Dieu qui est fidèle. Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent présentement. Ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui souffrent dans leurs pensées, ceux qui souffrent dans leur mariage ou dans leur famille, ceux qui souffrent dans la solitude, ceux qui souffrent dans le deuil. Seigneur, je te prie que tu viennes maintenant par ton Saint-Esprit manifester ta présence, que tu les aides à ouvrir les yeux, à voir plus grand, que tu es là et que tu veux renouveler tes bontés et tes compassions pour eux. Et Père, je te prie qu'en cette nouvelle année, en 2022, que nous puissions aller comme la biche soupire après des courants d'eau, que nous puissions aller soupirer après toi et chaque matin de dire, « Seigneur, j'ai besoin de tes bontés. Seigneur, je viens chercher tes bontés et tes compassions pour moi aujourd'hui. Tu n'es pas au bout de ton amour. Oh, même si des fois, Seigneur, je ne suis pas toujours aimable, tu n'es pas au bout de ton amour. Même si des fois, je ne suis pas fidèle, tu restes fidèle. Et Seigneur, nous nous accrochons, nous nous reposons dans ta fidélité. C'est en ton saint et précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Amen et amen. Puisse le Seigneur vous bénir richement en cette année 2022 et que ses bontés et ses compassions se renouvellent dans vos vies. Soyez bénis.